Ils ont changé le monde. Les vêtements. Ivan Jacob.
Aussi anodin que suspect selon la personne qui le porte, histoire d'un vêtement hautement politique, le sweat à capuche.
C'est une pièce que tout le monde porte dans son vestiaire.
Ce sont vraiment des pièces emblématiques de ce qu'est la mode américaine.
We, the people in suits, often see the hoodies as aggressive.
Ça devient le symbole de la victoire sportive et le symbole du dépassement de soi aussi.
The fact that he was black and also the fact that he's wearing a hoodie makes him suspicious.
La capuche, c'est l'invisibilité. La personne qui le porte peut être autant un héros qu'un criminel.
C'est un vêtement si commun qu'on pourrait le penser banal. Le sweat à capuche, hoodie en anglais, est absolument partout. Dans les salles de sport, les couloirs des lycées, dans les rues bien sûr, et sur les podiums de mode. Il a même réussi à se frayer un chemin jusque dans les bureaux de l'Élysée. Car le hoodie transcende les générations, les classes sociales, les genres. Il est porté par les ados comme par les grands-parents, et par les milliardaires comme par les livreurs. Son histoire commence bien avant le coton molletonné des années 30. Au Moyen-Âge déjà, on se couvre la tête à l'aide d'une capuche qui inquiète parce qu'elle dissimule le visage. Elle devient symbole d'anonymat, parfois de rébellion. Robin des Bois, ce n'était pas Robin of the Woods, mais bien Robin Hood, Robin à la capuche, figure du hors-la-loi, qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Mais c'est bien au XXe siècle qu'aux États-Unis, le hoodie en coton naît dans les vestiaires sportifs. Simple, utile, fonctionnel, il offre une alternative aux vestiaires formels et rigides, protège les travailleurs du froid et marque l'appartenance des étudiants à leur université. Dans les années 80, il devient l'uniforme des rappeurs et des skaters et envahit les rues. Digéré par la mode, il se décline en version luxe et semble avoir perdu de sa subversivité. Mais qui peut vraiment porter un hoodie sans risquer le soupçon, le contrôle ou la stigmatisation? Est-ce qu'un hoodie sur un jeune garçon noir dit la même chose que sur un patron blanc? Jusqu'où va le privilège d'un simple vêtement? Aujourd'hui, on va parler du sweat à capuche et de la façon dont il a changé le monde. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Christelle Cochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de mode, vous êtes directrice artistique de la maison Le Marié, un atelier racheté par Chanel spécialisé dans le travail de la plume et des fleurs. Mais vous êtes aussi et surtout la fondatrice de votre propre maison, Cochet, que vous avez fondée en 2014. Et votre travail multiplie les références au streetwear. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un incontournable pour vous le hoodie, personnellement, et aussi dans les collections que vous créez ?
Il est présent dans toutes les collections parce que c'est aussi une pièce qui est très accessible et qui permet aussi d'avoir un peu un dialogue en fait avec une audience. C'était aussi quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que c'est une pièce que tout le monde porte dans son vestiaire, que tout le monde a, que tout le monde peut s'approprier, qui est aussi non-genrée à l'origine, donc qui m'intéressait. Et moi, mon travail était vraiment de mélanger les codes de la couture, de l'artisanat, du luxe, et d'ouvrir en fait ces codes du luxe et de les rendre un peu plus démocratiques. Donc de travailler des pièces très iconiques issues du streetwear, de la culture populaire, et de les faire se rencontrer. Mais du coup, de la façon dont je l'ai fait, j'ai toujours essayé de les broder, de les embellir, de les travailler, de les sublimer, et d'avoir un dialogue vraiment très créatif autour de cette pièce, de le construire, de le déconstruire dans des coupes. Voilà.
On va remonter toute l'histoire du hoodie. Aujourd'hui, avec vous, il y a Mélodie Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste de mode, enseignante et autrice du livre « La mode et politique » paru en 2022 aux éditions Les Insolentes. Mélodie Thomas, vous avez fait remarquer sur vos réseaux sociaux après le show du rappeur Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl que les danseurs étaient tous en hoodie et que ça disait quelque chose de l'aspect politique de ce vêtement. Pourquoi ?
Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que, bon, ça a été dit dans l'introduction, et je pense qu'on en parlera plus longuement au fil de l'émission, le hoodie, ça reste une pièce du vestiaire qui est très stigmatisée. Donc, ce qui était intéressant avec ce qui s'est passé au Super Bowl avec Kendrick Lamar, surtout vu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, où il y a quand même une énorme montée du fascisme, une énorme montée de la xénophobie, une remise en question de tout ce qu'on a fini par appeler diversité et inclusion, le fait de faire cette mi-temps du Super Bowl, qui est regardé par des millions d'Américains et même au-delà des États-Unis, et de faire porter à des corps noirs une pièce du vestiaire qui les a souvent stigmatisés, bah pour moi, oui, il y avait quelque chose de politique, il y avait une revendication, d'autant plus qu'ils étaient souvent soit noirs ou alors aux couleurs du drapeau américain. Donc c'était une revendication de l'appartenance des Noirs américains à la pop culture américaine mainstream dans un vêtement qui pourtant les a souvent mis à part.
Ouais, une revendication et une sorte de revanche aussi. Alors on va se concentrer dans cette émission sur le hoodie au sens contemporain du terme, c'est-à-dire le sweat à capuche en coton que l'on connaît tous. Mélodie Thomas, ce vêtement, il naît d'abord par et pour le sport.
C'est un vêtement qui naît par et pour le sport. Alors pour moi, le hoodie, tout comme le sweat, qui est donc la version sans capuche, ce sont vraiment des pièces emblématiques de ce qu'est la mode américaine. Pour moi, ce sont des reflets du fait que la mode américaine, elle est beaucoup plus ancrée vers la décontraction. Elle est beaucoup plus intéressée, on va dire, par un lifestyle quotidien. C'est ce qu'on a appelé plus tard le casual. Donc c'est cette idée qu'on n'a pas tout le temps obligé de se mettre sur son 31
d'être
pour
habillé
paraître
dans des vêtements formels.
Exactement. Et donc ça apparaît à travers le sport. Et ce qui est très intéressant avec l'histoire du sportswear aux États-Unis, c'est qu'il a fini par inspirer et par devenir presque du coup l'uniforme du casual. C'est-à-dire que le vêtement quotidien, c'est le vêtement sportif. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec, le legging, qui à la base était utilisé pour le yoga et qui s'est imposé comme la pièce pour aller faire un peu toutes ses courses au fil de la journée, quoi. Surtout dans des villes de la côte ouest, dont Los Angeles.
Mais alors au départ, il est quand même utilisé sur les terrains de sport et il y a un conflit sur la paternité du sweat à capuche entre deux compagnies, la Benny Russell et la Knickerbocker Company, qui deviendra la marque Champion qu'on connaît. Qui l'a inventé ?
Bon, ça, c'est toujours des questions auxquelles il est très difficile de répondre parce que, bien sûr, tout le monde revendique la parentalité de ce type de vestiaire. Moi, en tout cas, la manière dont j'aime penser les choses, c'est que de toute façon, ce sont des pièces qui s'imposent parce qu'il y a
un besoin.
Un besoin où, en tout cas, ça reflète quelque chose de l'époque dans laquelle ils naissent et il y a une vraie conjoncture avec ce dont les gens ont envie au moment où ces pièces apparaissent. Et en fait, ce qui est intéressant avec le hoodie, c'est que très vite, si Champion, par exemple, peut se revendiquer d'une forme de parentalité, c'est parce qu'ils sont contactés par l'université du Michigan après avoir sorti leur premier hoodie et qu'en fait, ça s'insère à travers les universités américaines. Donc, c'est presque aussi le hoodie, finalement, s'insère dans une classe sociale qui est quand même assez élevée. Et véritablement, c'est au moment où naît tout ce qu'on va finir par appeler le vestiaire préppy.
Voilà, il y a une première version à capuche par Champion, c'est en 1934, et ils ont quand même une invention qui est la maille tricotée de biais, qui permet que le sweat ne rétrécisse pas au lavage. Ça, c'est nouveau. Alors, il est d'abord porté par les sportifs, mais il va rapidement être adopté par les travailleurs, ceux qui travaillent notamment dans le froid ou à l'extérieur.
Si on regarde la question du vestiaire américain, il y a souvent deux manières dont les vêtements s'insèrent, on va dire, dans un cadre beaucoup plus mainstream. Soit c'est des vêtements qui viennent du sport ou de la paramilitaire. Ensuite, ils sont souvent récupérés au sein des universités, parce que c'est très très important aux États-Unis quand même, toutes les universités sportives et toutes les équipes qui appartiennent à ces universités et qui revendiquent, on va dire, qui sont symboliques d'une certaine communauté au sein de ces universités américaines. Et ensuite, ça se décline au fur et à mesure vers quelque chose de plus lifestyle. Donc, parce qu'on a été à l'université et qu'on a eu l'habitude de porter un hoodie, c'est peut-être le même hoodie qu'on va finir par porter le dimanche quand on va faire son sport, même si on a fini ses études. Donc, je trouve qu'il y a une espèce de vision assez linéaire qu'on passe de l'université jusqu'au vestiaire le plus casual. En fait, c'est juste continuer quelque part à porter et à revendiquer les couleurs de son université.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on dit bien sweatshirt et pas sweatshirt, comme on entend souvent en français, parce que ça vient du mot sweat, transpirer. Donc c'est un vêtement dans lequel on peut transpirer. Alors vous le rappelez, il est portée par les étudiants, et notamment les étudiants de l'Ivy League, donc des étudiants de la haute société américaine, et en même temps par des gens qui travaillent dans les entrepôts frigorifiques. Donc en fait, dès le départ, il y a une sorte de double identité du hoodie qui concerne un peu toutes les couches de la société.
Je pense que ça s'explique aussi par les matériaux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à Champion. Il y a quand même beaucoup de techniques textiles qui ont ensuite permis de voir qu'on pouvait appliquer soit les pièces, soit les techniques à un vestiaire de travail. Donc c'est aussi le moment où le workwear prend une importance assez forte, parce que c'est des pièces qui sont confortables et c'est des pièces qui durent. Ce qui, bien sûr, est au carrefour de ce dont ont besoin les personnes qui appartiennent à des classes plus populaires.
Alors le flocage va arriver très vite dans cette histoire. On va écrire des choses sur ces sweatshirts et c'est aussi comme ça que ça devient un vêtement identitaire en fait dès le départ.
Ben encore une fois, c'est lié à la question des universités américaines. Je pense qu'on a tous, si on est des enfants des années 90 jusqu'à aujourd'hui, dès les premières séries américaines, on voit bien tous ces sweats et tous ces hoodies, tous ces sweats d'ailleurs, même moi je fais l'erreur, et tous ces hoodies avec un flocage de l'université. Et forcément, au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas personnaliser un peu plus ses messages, et donc c'est une manière de se réapproprier aussi son vestiaire en lui faisant dire des choses auxquelles on croit et des communautés auxquelles on appartient.
Alors vous le disiez, ils sont portés aussi le week-end et dans un autre environnement que le terrain de sport, mais il faut rappeler qu'au départ c'est quand même un vêtement masculin, hein, c'est les hommes qui le portent, et ils vont sur les campus les porter à leurs copines, à leurs petites amies, et c'est comme ça aussi qu'il va passer dans la mode un peu ce sweat.
Passer dans la mode, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu, je dirais, les débuts de tout ce qu'on a appelé youth culture, ou en tout cas culture jeune. C'était la même chose si on parle du Teddy, par exemple. Donc, c'est toute cette idée où il y a cette revendication, justement, du fait de se mettre en couple. Donc, on sort avec le garçon qui appartient à l'équipe de sport locale, et on est officialisé parce qu'on porte son Teddy, on porte son sweatshirt, etc., etc. Donc, il y a quelque chose un petit peu aussi de l'émergence d'une culture jeune qui se dissocie un petit peu de ce qui a pu être fait par les générations précédentes, où les vestiaires étaient beaucoup plus codifiés, beaucoup plus genrés. Et je ne sais pas si c'est ce qui permet de l'amener à la mode, ou si, parce qu'on voit justement les femmes se sentir à l'aise à travers cette idée de porter le vestiaire de son petit ami, la mode ne se dit pas à un moment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement, parce que ce sont des vêtements amples, qui sont confortables, et ce sont vraiment l'amplitude et le confort ne sont pas forcément des termes qu'on associe au vestiaire féminin.
Exactement, ça c'est assez nouveau. Christelle Cochet, vous créez des lignes de vêtements, vous créez des hoodies, est-ce que quand vous créez ces vêtements, vous avez en tête l'histoire de cette pièce, tout ce qu'on vient d'évoquer?
Je pense qu'on l'a toujours un petit peu. Après, on a peut-être perdu son sens profond qui on garde cette idée de confort, de vêtements qui s'adaptent à toute morphologie, mais on a peut-être perdu en fait son sens un petit peu premier qui vient en fait qui représente une appartenance, qui revendique quelque chose, un message politique ou autre. On le fait aujourd'hui parce que je pense que c'est un produit qui a une accessibilité. On le fait aussi aujourd'hui parce que tout le monde le porte, tout le monde l'utilise, et ça permet aussi d'être aussi créatif dans un cadre qui finalement est très commun.
Alors il y a une image qui va marquer les esprits, c'est celle de Mohamed Ali. À l'époque, il s'appelle encore Cassius Clay et il s'entraîne dans les rues de Londres en hoodie en 1963. Vous connaissez cette photo, Mélodie Thomas? Vous pouvez nous décrire un peu son style ou pas?
Décrire son style, pas à ce point-là, mais...
Alors, il a un pantalon de jogging et des boots noires, ce qui est assez inédit parce qu'il s'entraîne en boots noires, et puis il a un hoodie très serré autour du visage qui lui donne vraiment un style super. Et c'est ce genre d'image qui a contribué à faire entrer aussi le hoodie dans le paysage urbain, finalement.
Dans le paysage urbain, oui, et puis je pense aussi dans la pop culture au sens beaucoup plus large, parce qu'effectivement il y a les images de Mohamed Ali, il y a des images de Rocky Balboa, plus loin, enfin un peu plus tard, c'est aussi Eminem dans 8 Miles. Enfin, il y a toute une
après il y a tout le mouvement hip-hop qui a peut-être aussi beaucoup participé.
Totalement.
Parce qu'en fait très très tôt aussi, en fait, toutes ces pièces-là, elles ont été en fait vraiment portées et incarnées par toute cette culture, et il y a eu tout ce mouvement autour de Polo Life, de Low Life, et une marque de mode qui en fait a vraiment commencé à diffuser aussi en fait ces pièces-là et tous ces mouvements de hip-hop, de rap américain. Et de faire diffuser vraiment ces pièces. Et ça, je pense que c'était aussi à vraiment beaucoup participer à l'émergence, en fait, d'une culture et de cette rencontre entre ces pièces très urbaines et les pièces de mode. Hein.
Et alors, il y a un personnage qui va largement contribuer à populariser le hoodie à grande échelle en montant, en courant les marches du musée d'art de Philadelphie. 72 marches pour lui et un grand pas pour le sweat à capuche.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Voilà, vous avez sans doute reconnu la musique de Rocky et la scène où Sylvester Stallone s'entraîne dans un jogging et un hoodie gris et monte ce fameux escalier du musée de Philadelphie qui ont été rebaptisés les Rocky Steps. Il représente quoi le hoodie, pour le hoodie ce personnage de Rocky ?
Je pense que à ce moment-là, le hoodie, un peu, déjà, il y a forcément ce lien avec le sport. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend vraiment.
Parce que c'est un boxeur.
Exactement, parce que c'est un boxeur. Et je pense qu'on reprend totalement, on va dire, cette pièce qui est devenue symbolique aussi des classes populaires, comme on vient de le dire, parce qu'il y a cette revendication à travers le hip-hop au moment des années 70. Mais aussi, je pense, parce que l'histoire de Rocky, c'est aussi une histoire de dépasser sa condition. Parce que Rocky, on l'oublie souvent, mais c'est quand même une forme, enfin, c'est une histoire de l'immigration italienne. Et il y a cette idée aussi de revanche qui parcourt, on va dire, toute la saga Rocky. Et donc, le hoodie devient un symbole un petit peu, justement, de victoire à ce moment-là. Ça devient le symbole de la victoire sportive et le symbole du dépassement de soi aussi.
Et on retrouve finalement tout ce qu'il y a dans le hoodie à cette époque, c'est-à-dire le sport, comme vous le disiez, mais aussi les milieux populaires, comme vous le rappeliez, et l'aspect un peu louche, parce qu'il a un passé de prêteur, d'homme de main pour un prêteur sur gage.
À partir d'un moment, justement, au moment où il commence à s'insérer dans les classes populaires et surtout au niveau du mouvement hip-hop, il commence à y avoir, on va dire, des suspicions de criminalité. Ça a toujours été, c'est le cas pour beaucoup d'ailleurs de pièces qui appartiennent au vestiaire streetwear, notamment les sneakers. Si on revient à l'origine du terme, c'est parce que il y avait ce côté sneaky, c'est-à-dire c'est des chaussures qui ne faisaient pas de bruit et on disait que c'était les chaussures qu'utilisaient les cambrioleurs lorsqu'ils venaient voler les gens chez eux, quoi. Donc il y a toujours un rapport de suspicion et très vite en fait le hoodie devient presque le totem de ce flou en fait. La personne qui le porte peut être autant un héros qu'un criminel.
Christelle Cochet, est-ce qu'il y a des hoodies qui vous ont marqué, vous, dans la pop culture ? Vous l'avez évoqué brièvement, mais est-ce qu'il y a des pièces en particulier dont vous vous rappelez, avec lesquelles vous avez grandi ?
Il y a des hoodies, mais je pense que c'est surtout les créateurs qui m'ont marqué en fait. Je pense notamment, enfin, cette utilisation du hoodie par Alaïa porté par Grace Jones, des hoodies utilisés dans des défilés haute couture de Jean-Paul Gaultier, mais aussi Raph Simons. Et j'ai toujours vraiment été intéressée par ce dialogue en fait d'un geste créatif et cette rencontre avec l'univers de la mode et de la haute couture.
Est-ce que vous utilisez des images ou des pièces vintage pour créer vos collections que vous, je sais pas, épinglez sur un mood board, où il y a des images de hoodie comme ça que vous utilisez?
J'ai utilisé beaucoup de références du street style à Tokyo notamment, où c'est vrai que cette culture du streetwear est très très présente. Des marques comme Stussy, des marques comme Supreme sont intégrées avec la mode. C'est un pays qui est aussi fasciné par la mode et qui intègre une grande facilité de faire rencontrer ces deux styles. Et c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup inspirée. Mais après, moi qui suis très familière avec la coupe, j'aime aussi vraiment le déconstruire, le travailler, retravailler une manche, retravailler une proportion, le broder et me le réapproprier vraiment en le recoupant complètement dès le point de départ sans travailler même avec une base d'un hoodie. Hein.
pour le faire évoluer. Alors, il y a un autre hoodie très connu, un hoodie rouge tout simple, c'est celui d'Eliot, le petit garçon qui découvre E.T. dans le film de Steven Spielberg, sorti en 1982. Au début des années 80, le hoodie s'est déjà généralisé, mais il va prendre une nouvelle voie dans ces mêmes années 80, en habillant les graffeurs et les b-boys, c'est-à-dire les danseurs de breakdance. C'est comme ça qu'il arrive dans le hip-hop, Mélodie Thomas ?
Je pense que ça a toujours été une pièce, depuis les débuts du hip-hop, je pense que c'est une pièce qu'on a toujours retrouvée, en tout cas sur les images d'archives. Après, je pense qu'il y a une mainstreamisation forcément de la pièce, parce que plus on la voit et plus elle est, on va dire, récupérée par une culture mainstream, et plus elle se démocratise au sein de classes qui peut-être ne le portaient pas parce que soit c'était pas des familles où il y avait du sport, ou en tout cas il y avait cet aspect leisure. Mais je pense que ce qui est intéressant avec le hip-hop, c'est que justement, on prend une pièce sportive, on la met dans le vestiaire quotidien, mais pour l'élever. C'est-à-dire que ça devient une pièce de fierté, de représentation, de dignification de la personne, et on la porte avec c'est vraiment ses atours les plus stylés. On n'est plus du tout dans cette idée de ça, voilà, c'est confortable, c'est basique, et je sors de chez moi juste comme ça, c'est parce que c'est simple. Il y a vraiment un effort de stylisation qui se fait à travers le mouvement hip-hop, qui pour le coup, je pense, a marqué et continue d'être retrouvé aujourd'hui dans la manière dont les gens s'habillent.
Et il change de forme aussi au moment où il est adopté par le hip-hop, c'est-à-dire qu'il devient quand même plus large, moins fité.
Ah bah, je ne sais pas s'il devient plus large ou si les gens achètent des pièces des beaucoup plus grandes. Oversize pour justement revenir à... Pour moi, c'est un peu le début d'un rapport plus lifestyle au sportswear. Aujourd'hui, ça nous semble être une évidence, mais je pense que c'est... De cette manière-là qu'on peut aussi identifier le fait que c'est pas juste une question de confort pour aller avoir une pratique sportive, mais vraiment une question d'apparat. Parce qu'on a envie, justement, d'affirmer une décontraction. Ça se voit aussi avec les baggies, etc. L'oversize au sein du mouvement hip-hop. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'un peu l'exagération d'une nonchalance, qui est quand même assez forte et qui visuellement est très marquante.
Et qui est une grande rupture avec le vestiaire formel que le XXe siècle a connu, et a fortiori les siècles précédents d'ailleurs.
Oui, et puis qui, quand tout à l'heure je parlais de l'émergence de la youth culture, je pense que ce qui est très intéressant avec les États-Unis et qui a pu se refléter à plusieurs moments en Europe aussi, c'est qu'il y a cette possibilité pour des générations plus jeunes de s'approprier des pièces existantes, mais de leur donner une autre signification. Juste parfois en exagérant les coupes, les formes, ou genre en les personnalisant. Donc il y a vraiment cette idée de vous reconnaissez la pièce, mais c'est pas exactement la pièce telle que vous l'auriez portée ou telle que vous auriez pu l'imaginer.
Alors, on a beaucoup dit aussi que le hoodie avait été favorisé par les breakdancers ou par les taggers parce qu'il permettait de dissimuler le visage et d'apporter un certain anonymat. Est-ce que c'est vrai ça ?
Bah, je pense que c'est vrai, et aussi parce que faut pas oublier que le hoodie, je pense qu'il a une des raisons pour laquelle il a aussi été souvent criminalisé, c'est parce qu'il a été associé à des contre-cultures qui étaient vues comme criminelles. On oublie beaucoup, mais si on prend la question du graffiti pendant très très longtemps, et même aujourd'hui à quelques moments, le graffiti peut quand même être considéré comme une activité criminelle. Tout à l'heure, Christelle évoquait la question du skateboard. Pendant très longtemps, le skateboard a été considéré comme une activité sportive de délinquants, et d'ailleurs je dis sportive, mais c'était pas du tout considéré comme étant un sport, c'était juste de l'indélinquance. L'idée que ça puisse arriver un jour, tout comme la danse hip-hop au sein des Jeux Olympiques, ne pouvait pas frôler, je pense, l'esprit de beaucoup de gens dans les années 80 et 90. Les skateurs étaient vus comme nuisibles parce qu'ils faisaient du bruit avec leurs planches et qu'ils skataient des rampes, etc. Donc gênaient, on va dire, le bon fonctionnement de la société en tant que telle. Et puis pour les graffeurs, bah, c'était pareil, c'était salir le paysage urbain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est une manière finalement pour une jeunesse de se réapproprier les espaces en y imposant ses propres codes en fait, et aussi en imposant sa présence, parce que c'est aussi beaucoup des jeunesses, notamment masculines, qu'on marginalisait à certaines époques parce que justement elles n'entraient pas dans un cadre tel qu'on voulait voir finalement la norme, tel qu'on avait envie de percevoir la jeunesse masculine normative.
Alors vous parlez du skate, il y a plusieurs hoodies mythiques et qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, comme le sweat floqué Thrasher, du nom du magazine de skate qui a lancé sa ligne de vêtements en 1988. Il y a aussi la marque Supreme, dont vous parliez, Christelle Cochet, lancée en 1994 avec son logo rectangulaire rouge. Est-ce que le hoodie a réussi, entre guillemets, parce que tout le monde peut se l'approprier, Mélodie Thomas ?
Moi, concernant le skateboard, ce que je peux dire, c'est vrai qu'on a cette idée du skate comme étant lié fortement au mouvement rock. qui pourtant a lui aussi des origines noires. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi, on a une manière de départager l'histoire qui est quand même très binaire, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a toujours des conversations entre les différentes cultures. Et quand on regarde, il y a aussi énormément de skateurs qui écoutent du hip-hop. Et je pense que la naissance de Supreme revendique aussi un peu cette espèce de connivence entre différentes contre-cultures. Le hoodie devient un basique à partir de ce moment-là.
Pour tout le monde.
Ça devient pour tout le monde, mais surtout, on lui donne l'interprétation qu'on veut lui donner à partir de la manière dont on décide de le porter. Donc, c'est vraiment redonner aux gens la possibilité de faire dire aux vêtements ce qu'eux, ils ont envie. Et je pense que c'est en ça qu'une pièce peut vraiment prendre une place très importante dans un vestiaire contemporain, surtout quand on parle de culture jeune.
Alors, le hoodie est récupéré par la mode, il va arriver sur les podiums, et malgré ça, il continue de peser sur lui un certain nombre de clichés et de représentations négatives, davantage d'ailleurs dans le monde anglo-saxon qu'en France, et notamment en Angleterre.
We, the people in suits, often see the hoodies as aggressive, the uniform of a rebel army of young gangsters. But for young people, hoodies are often more defensive rather than offensive. They're a way to stay invisible in the street.
C'était un extrait d'un discours de David Cameron en 2006, lorsqu'il était chef de l'opposition en Angleterre. Nous, les personnes en costume, percevons le hoodie comme une agression, l'uniforme d'une armée rebelle de jeunes gangsters. Dans ce discours, David Cameron demande à ce que l'on arrête de stigmatiser le hoodie et les jeunes qui le portent, parce que le sweat, à ce moment-là, Mélodie Thomas, est devenu un vêtement associé à la délinquance.
Ben, le sweat a toujours été perçu comme un vêtement associé à la délinquance à partir du moment où justement il a été approprié par des classes populaires et aussi dans ces classes populaires il y avait beaucoup de personnes racisées, donc la criminalisation qu'on portait déjà sur ces corps se reflète aussi à travers le vestiaire qu'ils arborent. Ce qui se passe en 2000 au milieu des années 2000, c'est que justement on a eu la même problématique en France. Il y a toute cette conversation autour d'une jeunesse immigrée sur laquelle on ne sait pas trop comment communiquer avec elle non plus. La stigmatisation fait que on finit par criminaliser totalement des générations entières. Enfin, on s'attaque aux personnes à travers le vestiaire qu'elles arborent et donc on choisit le hoodie. Comme si demain on arrêtait de porter des hoodies, on arrêterait le crime, ce qui est quand même pour moi une forme de sophisme assez extraordinaire.
Il va quand même être interdit dans des centres commerciaux notamment.
Il va être interdit dans plein de centres commerciaux et surtout il va il crée un discours qui permet de percevoir toute personne qui porte le hoodie comme étant un potentiel criminel. C'est-à-dire que le vêtement en lui-même devient, si vous le portez, vous accepteriez apparemment d'être aussi porteur d'une possible menace, d'une possible suspicion qu'il faudrait arrêter. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce passage de David Cameron, c'est que David Cameron fait partie du parti Tories en Angleterre,
qui est plutôt
conservateur, et que la polémique qui s'ensuit met le parti des travailleurs, genre Labour Party, plutôt du côté des conservateurs dans leur manière de percevoir le hoodie. Donc c'est assez intéressant de voir un conservateur essayer de rassembler et d'unifier et de dire peut-être qu'il ne faudrait pas criminaliser cette jeunesse et qu'il ne faudrait pas criminaliser ce vêtement-là parce que en fait la raison de le porter n'est pas toujours dans l'idée de commettre un crime. Et finalement, c'est le parti des travailleurs, donc le parti populaire, qui dit « ah bah non, c'est du laxisme sur la criminalité ».
Alors c'était dans un contexte aussi d'émeutes à Londres notamment et où on avait vu pas mal de jeunes porter des hoodies et commettre des faits de délinquance comme attaquer des vitrines ou des choses comme ça. Mais dès le Moyen-Âge, en fait, le fait de dissimuler son visage, c'est considéré comme louche, je l'ai évoqué rapidement, et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la culture populaire. Il y a l'image de la mort, tout simplement, qui porte une capuche. Il y a ce personnage d'Assassin's Creed qu'on a revu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et le hoodie, finalement, il souffre de cette imagerie.
C'est vrai que la capuche, c'est l'invisibilité. C'est refuser à l'autre son regard, et par conséquent, on se dit, pourquoi est-ce que la personne cherche à se cacher ? Si elle cherche à se cacher, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Donc en fait, on crée la suspicion dans le regard de l'autre. Et puis effectivement, il y a quand même plein de pièces du vestiaire streetwear qui ont pu être utilisées à certains moments dans un aspect de revendication, dans un aspect presque de militantisme, qui demandait justement à se couvrir parce qu'on sait qu'on est en train de commettre une infraction, qu'on est en train de commettre quelque chose d'illégal. Et donc, on cherche à couvrir son visage et à protéger son identité pour pouvoir revendiquer quelque chose. Je dis pas ça du tout, on va pas me dire que je justifie des actes criminels. Mais en tout cas, on sait qu'à travers plusieurs époques, la capuche a pu être utilisée justement pour se camoufler à cette raison. Donc oui, c'est pas une suspicion qui date d'hier, ça remonte à très 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 longtemps.
Il y a des lois au XIVe siècle qui interdisent de se couvrir le visage.
Qui interdisent de se couvrir le visage. Après, ce qui est intéressant avec le Moyen-Âge, c'est que c'était une période aussi où on n'avait pas toute cette possibilité de traçabilité qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pièces d'identité, voilà, la question des frontières est quand même très régulée, etc., ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Donc, l'arrivée de l'étranger au sens très très large du terme, parce que ça pouvait être pas forcément une personne, en tout cas une personne qui extérieure à la ville, etc., créer la suspicion, parce qu'on ne connaît pas ses ramifications familiales, et du coup, on peut se demander ce que la personne vient faire là. Aujourd'hui, on a tous des cartes d'identité, voilà, on est quand même soumis à un certain nombre de lois et de codes de vie qui fait que cette suspicion de l'autre parce qu'on est assis dans le métro et d'un coup la personne elle a une capuche et on serait effrayé me semble quand même un peu exagéré.
Alors David Cameron dit aussi dans son discours que les jeunes qui le portent, le hoodie, le font peut-être davantage pour se protéger du monde, pour s'isoler que pour le défier. Christelle Gaucher, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense qu'il y a une partie de vérité, mais je pense qu'en 2006, c'est un peu surprenant comme discours, hein, parce que ça faisait longtemps pour moi que cette pièce, elle avait, mais ça montre parfois un peu la déconnexion du politique avec la rue. Mais ça permet aussi une certaine concentration. On voit bien les joueurs de NBA avant de rentrer sur le terrain, souvent pour s'isoler, pour se concentrer, qui vont remonter la capuche. Aujourd'hui, ça permet aussi juste de se protéger, c'est aussi un vêtement qui a juste cette fonction de base de mettre sa capuche pour s'isoler, pour prendre le métro, pour affronter les éléments de la pluie, le vent, etc. Mais je pense que voilà, toutes ces éléments de subversion, ils sont aussi un peu dépassés, sauf si parfois, sur certains mouvements de contestation, il y a des mouvements comme les Black Blocs, et je pense que c'est à quoi on fait référence aujourd'hui, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il a peut-être perdu en tout cas cet élément subversif. Hein.
Vous-même, vous le portez, Christelle Gaucher, le hoodie ? Ce qui vous permet de vous protéger du monde comme ça ?
Moi, je le porte parce que je fais pas mal de sport, donc quand je fais du sport, je vais le porter. Je le dessine, et quand je dessine, en fait, quand je crée, en général, quand je suis chez moi, je porte mon legging et mon sweatshirt parce que c'est confortable, c'est une matière de jersey, on sent en protection quand on arbore en fait ce type de vêtements, et c'est vrai qui amène aussi certaines douceurs, un certain confort, et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi pour ça qu'il est tellement été adopté par toutes les générations, par tout type de corps, par tout type de classe sociale et qui fait partie en fait de notre quotidien.
Alors en 2012, le hoodie prend une autre dimension après le meurtre de Trayvon Martin, 17 ans, un adolescent abattu alors qu'il rentrait chez lui par une sorte de milicien de quartier parce qu'il portait un hoodie et avait été pour ça jugé dangereux par son meurtrier.
Le fait qu'il soit noir et aussi qu'il portait un hoodie en marchant jusqu'à chez lui dans son quartier ou celui de sa belle-mère l'a rendu suspect. Si ça avait été l'inverse et que Trayvon ait tiré sur ce mec-là, il serait en prison en ce moment.
On entendait des manifestants réclamant justice après le meurtre de Trayvon Martin lors d'une marche à Washington. Mélodie Thomas, je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'intitule « La mode et politique ». On peut vraiment dire à partir de ce moment-là que le hoodie devient un vêtement hautement politique.
En fait, moi, ce que j'aime dire avec le titre de mon livre, c'est la mode est politique et le versant, c'est parce que les corps sont politisés. On a décidé que les hommes et les femmes étaient différents, donc il fallait qu'ils s'habillent différemment. On a décidé que à partir d'un certain âge, on devait s'habiller d'une manière différente que les gens qui sont un peu plus jeunes. Et on a décidé aussi que, en fonction de son appartenance sociale ou raciale, il y avait des vêtements qui pouvaient accentuer la dangerosité qui était déjà véhiculée dans le regard des autres. Le hoodie ne devient pas politique à ce moment-là, je dirais. Je dirais que le hoodie devient le symbole de la manière dont on criminalise la jeunesse noire, notamment aux États-Unis, mais aussi en réalité dans beaucoup de pays occidentaux, parce qu'on la voit comme étant de facto criminelle. C'est-à-dire que Trayvon Martin, il a 17 ans, et comme beaucoup d'ados qui, le même soir, devaient rentrer chez eux avec un hoodie, le fait d'être un homme noir dans un quartier qui n'est pas majoritairement noir, avec un sweat à capuche sur la tête, fait de lui un criminel de facto. Et donc, on peut l'abattre dans la rue sans avoir à se poser de questions.
Un journaliste de la Fox, la chaîne d'info la plus regardée aux États-Unis, avait aussi déclaré à l'antenne, juste après l'assassinat de Trayvon Martin, « J'exhorte les parents de jeunes noirs et latinos à ne pas laisser leurs jeunes enfants sortir avec des sweats à capuche. Je pense que le sweat à capuche est aussi responsable de la mort de Trayvon Martin que George Zimmerman, c'est le nom du tueur. » La référence raciale, elle est ici directe, même pas dissimulée, Mélodie Thomas.
Elle est directe et encore une fois, moi ce que je trouve hallucinant avec ce type de prise de parole, c'est qu'on fait reposer la faute sur les victimes. C'est-à-dire que voilà, il n'aurait pas dû porter de sweat à capuche et potentiellement il s'en serait sorti. Si les parents disent à leurs enfants noirs de ne pas mettre de hoodie, ben voilà, ils ont moins de chances de se faire abattre dans la rue. Mais c'est quand même complètement lunaire de tenir ce type de discours. Après, c'est pas très étonnant vu la chaîne où ils ont été tenus. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est cette conversation qui cherche à déculpabiliser et déresponsabiliser aussi d'une forme de racisme hyper pernicieux qui continue à faire son œuvre dans beaucoup de sociétés en Occident. Et plutôt que de s'interroger sur pourquoi est-ce que un jeune garçon noir peut être perçu de facto comme dangereux, on préfère dire oui voilà, il avait l'attirail de la personne à abattre.
Je voudrais aussi qu'on écoute ce très court extrait d'un discours de Bobby Rush, l'un des cofondateurs des Black Panthers, élu plus tard à la Chambre des représentants et escorté hors de cette chambre pour avoir porté un hoodie, capuche sur la tête, en réaction à la mort de Trayvon Martin.
Racial profiling has to stop, Mr. Speaker. Just because someone wears a hoodie does not make them a hooligan.
Dans ce discours, on l'entend dire « Racial profiling has to stop just because someone wears a hoodie does not make them a hoodlum ». Alors il y a un jeu de mots qui se perd à la traduction en français. Le profilage racial doit cesser, ce n'est pas parce qu'une personne porte un sweat à capuche qu'elle est un voyou. Est-ce que le meurtre de Trayvon Martin a permis d'ouvrir un peu les yeux sur les représentations qui peuvent peser sur un vêtement, Mélodie Thomas?
Je pense que le meurtre de Trayvon Martin, déjà la première chose qu'il a faite, c'est créer, je pense, un mouvement qui continue aujourd'hui de challenger, on va dire, nos regards, et notamment le regard qu'on porte autant sur le vêtement que sur les personnes qui le portent. Ça a été le mouvement Black Lives Matter, qui en plus a eu plusieurs vagues depuis ce premier assassinat en 2012, même s'il y en a eu, il y en avait eu précédemment, qu'il y en a eu entre-temps, dont on a peut-être moins parlé d'un point de vue médiatique, mais en tout cas qui ont permis d'avoir des conversations sur les problématiques raciales aux États-Unis, mais aussi plus largement parlant, notamment en 2020, dans énormément de pays occidentaux. Et ça permet en fait d'avoir une conversation sur, encore une fois, est-ce que c'est le vêtement le problème ou est-ce que c'est la personne qui le porte?
Ce qui est fou, c'est que parallèlement, dans les années 2010, le sweat à capuche est porté par les leaders de la tech comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, sans que ça leur pose de problème à eux. Donc une partie de la population peut le porter sans se poser aucune question, alors que pour la population noire, surtout aux États-Unis, ça peut être mal perçu et même carrément dangereux.
Bah oui, totalement. Mais encore une fois, on en revient à la question, quand je parle de corps, de corporalité, ce que je veux dire, c'est l'apparence des personnes. On va décider si cette apparence est dangereuse ou pas. Donc, si on est un homme blanc, qui travaille dans la tech, etc., avec un sweat à capuche, ça devient limite un symbole de tout ce qui va être très nerd, hyper smart, etc. Par contre, si on est un garçon noir qui le porte, dans le meilleur des cas, on est forcément un sportif de haut niveau. Dans le pire des cas, on est potentiellement un criminel.
Alors en 2019, un photographe anglais qui s'appelle Cephas Williams a publié un projet baptisé 56 hommes noirs, des hommes en hoodie, capuche relevée, qui fixe l'objectif et avec comme légende « I'm not my stereotype », je ne suis pas mon stéréotype, je suis par exemple parlementaire, pilote, chorégraphe, etc. C'était une campagne pour démonter les stéréotypes raciaux. Ces images sont assez édifiantes et on peut comprendre que ces stéréotypes dont sont victimes les personnes noires notamment, donnent envie de se protéger comme on le disait tout à l'heure et de se couper du monde. Et de fait, le hoodie est un vêtement qui peut servir à dissimuler son visage, non pas seulement pour les criminels, mais aussi pour ceux qui souhaitent lutter contre la multiplication des caméras dans l'espace public, contre la reconnaissance faciale et les données collectées. Est-ce que le hoodie peut aussi être un moyen de lutter contre la culture de la surveillance, Mélodie Thomas ?
Bah, je pense que ça a toujours été le cas et que c'est, du coup, ça a toujours été le problème. C'est justement parce qu'on peut dissimuler son visage que ça peut alimenter, on va dire, toute la frénésie que peuvent avoir certains conservateurs autour de la sécurité. Enfin, tout le discours sécuritaire dont on subit quand même beaucoup les conséquences depuis le début des années 2000 a fortement stigmatisé la question du hoodie. On nous a quand même vendu la question de la vidéosurveillance comme une possibilité de liberté dont on attend encore de voir la preuve, on va dire. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je suis d'assez près parce que je crois que c'est en 2014, il y a eu la révolution des parapluies à Hong Kong et il y a commencé à avoir justement toute une emphase mise sur les accessoires et les vêtements qu'on pouvait utiliser pour tromper. Ça a été les parapluies, ça a été les lasers aussi. Donc aujourd'hui, dans plein de manifestations à travers le monde, il y a une utilisation de vêtements, d'accessoires et de nouvelles technologies pour contrer justement cette société de surveillance, d'ultra-surveillance qu'on essaye de nous vendre comme un progrès. Et donc, je pense que dans les prochaines années, notamment au moment des manifestations, ça va être très intéressant de voir comment le vêtement va être utilisé pour tromper.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Alors le hoodie, il marque aussi le triomphe d'une mode décontractée, sans effort. C'est un vêtement banal, on l'a dit. Est-ce que c'est le meilleur vêtement pour se fondre dans la masse, Christelle Cochet ?
C'est un vêtement qui est un peu passe-partout, c'est évident. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est aussi un vêtement de base. Du coup, quand on l'adopte, c'est aussi être un peu adapté aussi cette culture un peu populaire, normcore.
Normcore, c'est comment expliquer ça? C'est des vêtements vraiment banals, sans marque, sans style.
C'est un basique, quoi. Un peu comme on l'évoquait précédemment, Mark Zuckerberg, qui est cette, en fait.
La figure du normcore.
La figure de ce mouvement normcore. Pour moi, il est passé, ce vêtement est tellement passé dans la culture principale que, en fait, c'est souvent en fait des interprétations de politique ou qui vont au-delà du corps d'un discours racisé ou autre ou qui va mettre aujourd'hui pointer du doigt ce vêtement parce qu'aujourd'hui il a plus de substance pour moi. Aujourd'hui, on trouve ce vêtement, il est porté dans le 16e, il est porté uptown avec des petites ballerines et une jupe plissée autant qu'il est porté je sais pas dans le 9-3 ou dans des ou dans le Bronx. Pour moi, il a plus de force non plus. C'est seulement les interprétations qui aujourd'hui est-ce qu'on veut bien lui faire porter malgré voilà.
Alors il est tellement partout ce hoodie qu'il est aussi arrivé sur les podiums des défilés de mode. À quel moment ça devient un objet de mode le hoodie, Mélodie Thomas?
Alors, je pourrais pas dater exactement à quel moment il devient un objet de mode. Christelle a cité plusieurs occurrences où des designers l'ont réinterprété, en tout cas. Mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est de voir qu'à partir du début des années 2010, il y a une réappropriation du vestiaire streetwear dans la mode, dans l'ultra luxe. Je pense que d'ailleurs, ça a commencé avec Chanel, qui avait fait ses premières baskets. Je crois que c'était avec Swarovski. En tout cas, il y avait des cristaux sur la basket. Je l'ai en tête.
C'était vraiment un défilé haute couture et,
oui,
et Karl Lagerfeld a vraiment pensé ce vestiaire urbain donc avec les premières baskets qui est de couture avec des tweeds qui étaient tissés à la main par les ateliers Le Sage, rebrodés, retravaillés avec des marqueteries de plumes, avec des broderies extraordinaires et il l'avait associé avec des robes de haute couture.
Exactement.
Et c'est vrai que ça avait fait un peu scandale. Tout le monde était, elles avaient une attitude, une démarche qui questionnait et en fait aujourd'hui c'est ce qui est arrivé plus tard. Tous les créateurs, toutes les marques se sont appropriées ces codes, les baskets, le streetwear, les hoodies, les bombers, les jeans, etc. quoi.
Il y en a un hoodie, Mélodie, dans la collection Chanel printemps-été 2016 et en haute couture effectivement, c'est-à-dire pas en prêt-à-porter, mais finalement le hoodie c'est peut-être l'emblème par excellence de la récupération du streetwear par la mode et par le luxe.
Je sais pas si c'est l'emblème par excellence, parce qu'il y a, sans doute beaucoup d'autres pièces.
Il y a les baskets aussi.
Voilà, il y a les baskets. Mais ce que je trouvais intéressant, par exemple, c'est vrai que cette collection avait fait un peu scandale aussi parce que c'était porté dans un vestiaire féminin. Il y avait le côté haute couture, mais il y avait aussi le côté les femmes portent des sneakers. Parce qu'il y a longtemps eu un débat sur est-ce que la sneakers peut appartenir au vestiaire féminin ou pas. Et du coup, ça avait été tranché par Karl Lagerfeld dans les plus hautes instances de la mode. Mais ce qui était intéressant, c'était que déjà en 91, si je ne dis pas de bêtises, il avait fait une collection qu'on avait renommée la collection hip-hop, où il s'inspirait déjà des codes de ce qui pouvait se faire dans les hip-hop des années 90.
Avec beaucoup de colliers en or.
Exactement. Et avec des intonations un peu sportives, etc. Et c'était également
inspiré
une collection...
Inspiré de Rocky, avec des grosses ceintures aussi, et tout ce vestiaire.
Une très belle collection, il faut le dire.
Oui, totalement. Et donc déjà, il y avait un peu, cet attrait, on va dire, parce que pouvait signifier la culture hip-hop à l'époque.
Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de femmes. Enfin, on avait dans la culture hip-hop, on avait Salt and Pepper ou quelques, des TLC, etc. Mais
qui sont des groupes de musique, exclusivement féminin.
Exactement, mais elles étaient très très peu nombreuses. Et c'est vrai que ça a mis du temps, en fait, que ce type de vêtements arrive vraiment dans le vestiaire féminin. Et c'est vrai qu'à partir du moment de cette fameuse collection de Karl Lagerfeld, c'était ok de porter des baskets au bureau. C'était ok de pas avoir juste sa paire de baskets dans le sac et de mettre ses escarpins et de se changer de chaussures comme faisaient les New Yorkaises depuis longtemps et qu'on pouvait et qu'aujourd'hui tout le monde vient en basket, marche en basket, etc.
Mais alors pourquoi selon vous, Christelle Cochet, le streetwear a eu autant de succès dans la mode? Pourquoi il a été autant récupéré comme ça?
Je pense qu'en fait, il y a aussi envie une nouvelle ère aussi, de revisiter peut-être les codes urbains, mais aussi ces notions de confort qui est aussi devenue cruciale dans la mode. Je pense qu'aussi on a voulu en fait faire rentrer ces nouveaux codes dans le prêt-à-porter. Oui, s'habiller dans des vêtements très sophistiqués, très beaux, mais aussi c'est devenu aussi crucial pour des gens qui voyagent de plus en plus, pour aujourd'hui une société qui est en plus tournée vers les loisirs, d'avoir aussi des vêtements qui adaptent ce nouveau mode de vie. Et je pense aussi, c'est cette rencontre, en fait, d'avoir aussi d'une certaine clientèle de faire jeune, de continuer à évoluer, de dépenser, d'avoir
Je pense aussi qu'il y a eu un élargissement du luxe. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi quand j'ai commencé à travailler dans la mode, je ne donnerai pas la date, mais on parlait du luxe encore comme étant une cage dorée. Il y avait quelque chose d'assez renfermé sur lui-même.
Une certaine clientèle plus aisée,
exactement,
plus âgée.
Exactement, sauf qu'à un moment donné, le luxe a cherché à s'ouvrir beaucoup plus, a cherché à attirer de nouveaux consommateurs, attirer de nouvelles classes sociales aussi dans son giron. Et par conséquent, on s'intéresse aussi à qu'est-ce qui intéresse ces classes. Si on a envie à un moment donné qu'une personne se dise pourquoi pas acheter un rouge à lèvres de telle marque à tel prix, eh bien, il faut aussi qu'elle ait l'impression de se sentir représentée et de sentir que la marque, elle capte quelque chose de l'air du temps dans laquelle la personne s'inscrit. Donc, par conséquent, on va élargir son cercle d'influence et d'inspiration à ce que font les gens, on va dire, aujourd'hui. Je pense que ça, c'est beaucoup ressenti, notamment au milieu des années 2010, à partir de 2015 notamment, quand on a vu arriver des Demna Gvasalia ou des Virgil Abloh, parce que il disait quelque chose justement de cette jeunesse qui, en plus de ça, n'avait plus du tout de verticalité par rapport aux influences vestimentaires, mais tout pouvait s'échanger de manière très horizontale. Donc on pouvait finalement porter une pièce de créateur avec une paire de chaussures d'une marque, d'un équipementier, avec un gros bijou de luxe. En fait, on a totalement mis à l'horizontale toutes les influences possibles et imaginables en termes de mode.
Ouais, c'est un gros retournement quand même pour la mode, parce qu'elle a, pendant longtemps, elle a rejeté ce streetwear, elle n'en a pas voulu.
Elle en a pas voulu, elle a pas voulu de la clientèle non plus, elle a pas voulu des influences qui étaient associées. Tout à l'heure, on parlait d'effectivement des femmes du hip-hop, dont les TLC, dont Alia, aussi des Queen Latifah, etc. Il a fallu très 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 longtemps à la mode, et je dirais que c'est d'ailleurs très récent, pour que des femmes rappeuses puissent être considérées comme de possibles ambassadrices pour des marques de luxe. Et je dis possibles ambassadrices, parce que finalement, elles sont pas si nombreuses que ça. Donc, oui, il y a toujours un peu cette idée de qu'est-ce qui est le luxe, qu'est-ce qui est le chic et qui est-ce qui peut en être le représentant finalement.
Alors, Christelle Cochet, vous avez créé des hoodies à sequins, des hoodies brodés. Est-ce que le secret du hoodie, c'est son adaptabilité? On peut tout en faire, hein, finalement, parce qu'il y en a même des hoodies qui se mixent avec le tailoring, avec la corsetterie aussi. Il y a des hoodies avec renforcés au niveau de la taille, avec des baleines.
Aujourd'hui, c'est devenu une expression artistique, une expression de création. Et moi-même, je me le suis approprié en ayant vraiment un regard très très créatif sur ce vêtement et en essayant d'amener les codes de la couture. Et moi, ma démarche venait aussi parce que moi, j'ai grandi en milieu populaire. Mon père travaillait à l'usine. J'ai grandi en banlieue HLM. Et c'est vrai que mon environnement, c'était le jogging basket. C'était en fait vraiment l'uniforme de banlieue. Et c'est vrai que quand on commence à travailler dans la mode, dans toutes ces marques de luxe, enfin, je pensais qu'il y avait vraiment une exclusion en fait de ce type de population. Il y avait vraiment une exclusion, enfin un barrage. Et c'est vrai que tout mon travail, quand j'ai commencé cette marque Cochet, c'était en fait de faire des ponts, faire des rencontres. Ma passion pour l'artisanat, ma passion pour la coupe, ma passion pour l'histoire de la mode, comme des Madame Vionnet, des Cristobal Balenciaga, des Charles James, qui est vraiment amené en fait cet héritage de la couture et décloisonner en fait ses codes et l'emmener à avoir un peu une touche de couture dans la vie de tous les jours. Donc retravailler avec des cristaux, avec des plumes, travailler des manches extrêmement compliquées, des manches marteaux, des manches origami, travailler des broderies qu'on va appliquer d'habitude dans la haute couture et vraiment faire rencontrer les deux univers. Et ça, je pense que ça a été super intéressant et aujourd'hui c'est aussi assez très intéressant de voir toutes ces marques qui se l'approprient.
Et justement, il y a une autre marque qui a produit un hoodie étonnant, j'en parlais rapidement, un hoodie corseté, donc renforcé à la taille, et porté par le rappeur Bad Bunny à Coachella en 2023. C'est un hoodie créé par le créateur Kazé Cadwallader, dont j'ai toujours du mal à dire le nom, à la tête de la marque Mugler. Le corset, c'est une pièce très emblématique du vestiaire féminin, mais la partie hoodie le rend assez unisexe. Est-ce que le sweat à capuche, c'est le vêtement non-genré par excellence ?
Ça l'était et ça a été vraiment en fait le vêtement qui est souvent ample, qu'on s'échange avec son ami, son petit ami, qui amène aussi beaucoup d'aisance. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui tous les créateurs se l'ont approprié. Aujourd'hui, on a des découpes, on a des pinces. Il est taillé, on l'a retransformé sur des robes, sur d'autres vêtements. Il y a des fusions et c'est vrai que c'est une pièce qui est devenue très très créative. Même si à l'origine, je pense, c'était une pièce non genrée et plutôt issue du vestiaire masculin.
C'est ça. Et pour les femmes, c'est un vêtement qui offre aussi la possibilité de bouger très librement. Et ça, c'est quelque chose qui a pas toujours été garanti dans le vestiaire féminin au cours de l'histoire. Bien au contraire. J'ai l'impression que le hoodie donne aux femmes une sorte de droit à la nonchalance. Vous en parliez tout à l'heure, Mélodie Thomas, de cette nonchalance. Le droit de ne pas se tenir droite et mesurée, comme on l'a souvent opposé aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux ?
Je pense qu'effectivement, de toute façon, le vestiaire féminin aujourd'hui, ou en tout cas, je pense la manière dont les femmes s'approprient leur vestiaire, est beaucoup moins codifié par rapport à leur genre. Je pense qu'il y a eu toute une conversation, encore une fois, on va revenir aux années 2010, où quand de très grandes anciennes de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant de la fast fashion se sont lancées, elles ont remarqué que finalement, les femmes préféraient peut-être aller acheter un hoodie au rayon homme que de le prendre au rayon femme, parce que c'est un peu plus cintré et que, on veut absolument coller aux formes féminines, alors que des fois, on a juste envie d'être à l'aise dans un vêtement, qu'on n'a pas forcément envie d'être envoyé constamment à son genre aussi. Ça permet une forme de presque d'androgynie, mais sans vraiment emporter vraiment le drapeau idéologique, je dirais. Il y a cette idée de très passe-partout, en fait. Genre juste, je peux juste porter un pantalon très ample, un sweat à capuche. Si j'ai envie de le rendre très très féminin en me maquillant, en mettant des chaussures à talons, je peux le faire. Si j'ai envie de le mettre avec une paire de baskets et un bonnet sous le hoodie, je peux le faire aussi. Et finalement, tout est acceptable.
Et vous, Christelle Cochet, vous créez des hoodies. Est-ce qu'ils sont pour hommes ou pour femmes ou est-ce qu'ils sont totalement non-genrés ?
Je fais les deux. J'ai vraiment des pièces qui sont complètement unisexes parce que je pense que certaines pièces, elles ont pas besoin d'avoir un genre et je pense que c'est bien que ce soit ainsi. Et il y a des pièces qui sont vraiment pensées comme des pièces très 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 féminines et dans tous les cas, je suis pour en fait l'appropriation des clients et des personnes des vêtements et je trouve ça super. Très bien comme message qu'un Bad Bunny puisse porter un hoodie corseté et qu'on fasse un peu déplacer les lignes. Et je pense que le vêtement est justement accompagne des grands mouvements de société et qu'elle a toujours été. Et je pense que cette pièce justement si commune peut accompagner en fait à déplacer le curseur sur le genre, sur la race, sur les appartenances. Et je pense que c'est ce qui rend cette pièce aussi, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour en parler et qui est si riche. Dans son discours et dans son étude sociologique. Hein.
Alors sur le genre et sur la morphologie aussi, oui. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le hoodie, c'est qu'il permet de s'adapter à toutes les morphologies et donc de répondre à un questionnement sur la mode inclusive, comme on l'appelle. Mélodie Thomas.
Ce que je trouve intéressant, je vous écoutais parler, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on le met sur un corps féminin, on revient au hoodie comme possibilité d'anonymat. C'est vrai que les femmes, du point de vue de la société, historiquement, de manière générale, il y a cette idée de, on peut avoir accès au corps féminin dans l'espace. À partir du moment où on le recouvre d'un vêtement qui est beaucoup plus large, bah finalement, on dissimule ce que les gens s'attendent à voir et décide qu'il doit être visible. Et je remontais, je regardais un texte où on parlait des femmes qui, à une certaine époque, dans les siècles passés, quand elles mettaient des grandes capuches, on les appelait les invisibles. Donc en fait, pour les femmes, c'est aussi cette possibilité, finalement, de pouvoir circuler dans l'espace de manière invisible, parce que de dos, on se dit, on sait pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. En fait, on ne peut pas savoir. Donc c'est récupérer aussi pour les femmes cette capacité de se dire, en fait, mon corps n'est pas forcé d'apparaître dans l'espace public. Je ne suis pas obligée d'affirmer ma féminité si j'en ai pas envie.
Voilà, de se dérober aussi au regard.
Exactement.
Alors, certaines marques proposent aujourd'hui des sweats à capuche assez banales. Tom Ford, pour ne pas citer de nom, propose un hoodie à 55% de polyester pour la modique somme de 1 500 $. Un hoodie porté par le personnage Kendall Roy dans la série Succession. Est-ce que, selon vous, la mode a vidé le hoodie de son sens politique en faisant un vêtement comme un autre, ou est-ce qu'il peut encore garder de sa subversivité aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il a perdu beaucoup de sa subversivité aujourd'hui, mais il permet toujours d'accompagner des grands mouvements. On parlait de Black Lives Matter, et c'est toujours un vêtement qui est un porte-drapeau pour un message, pour un slogan, etc. Mais il n'est plus seulement ça, c'est aussi une vraie pièce de mode, et aujourd'hui interprétée dans de la dentelle, dans de l'organza, dans d'autres, et qui est un vrai terrain de jeu de mode aussi. Hein.
J'ai une dernière question. Pour son défilé automne-hiver 2019 à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, la marque Vêtements faisait défiler des hoodies qui couvraient aussi la bouche, avec des zippers remontant jusqu'aux yeux, des sortes de cagoules qui sont aussi une tendance dans les clips de rap, d'un genre musical qui s'appelle la drill. Est-ce que finalement l'évolution du hoodie, c'est ça, c'est la cagoule pour dissimuler totalement son visage? Est-ce que c'est le next step du hoodie?
Je pense que ce qui est intéressant avec... c'était Balenciaga, c'est ça?
C'était Vêtements.
C'était Vêtements. Ce qui est intéressant avec Vêtements, c'est qu'il y a toujours eu, on va dire, un espèce de clin d'œil à la contre-culture. À des cultures, en tout cas, perçues comme étant un peu plus underground. Et c'est vrai que, même si on remonte la question, c'est vrai qu'il y a eu le hoodie, mais il y a aussi eu... il y a cette marque CP Company qui fait des parkas avec des lunettes plastifiées au niveau de la capuche. Et en fait, quand on referme la capuche, et qu'on referme la parka, on ne laisse rien voir de son visage. Et pendant très longtemps, à une certaine période, je crois que c'est dans les années 70 en Italie, parce que c'est une marque italienne, c'était beaucoup utilisé dans les mouvements d'extrême gauche lors des manifestations. Aujourd'hui, c'est récupéré dans beaucoup de clips aussi du mouvement de la culture rap en France ou même en Angleterre. Donc ça dit encore quelque chose de cette capacité de dissimulation et de cette capacité finalement de pouvoir agir d'un point de vue, enfin de retrouver, on va dire, son autonomie, sa capacité d'agir d'un point de vue politique. Et en fait, si demain je retire ma capuche et que je fais glisser mon zip, en fait, je peux me fondre de nouveau dans la masse. Donc c'est à la fois ce qui fait totalement flipper les gens qui sont dans le tout sécuritaire, et à la fois, je pense que ce qui continue de faire de ces pièces, des pièces très attractives pour les mouvements militants. Donc, pour rejoindre ce que disait Christelle, je dirais pas que c'est des pièces qui ont perdu de leur force politique. Je dirais que finalement, ce qui fait leur force politique, c'est les personnes qui les portent.
Et c'est la beauté aussi du vêtement de s'adapter à ceux qui les portent. Merci à toutes les deux, Christelle Cochet, Mélodie Thomas. Mélodie, je rappelle que votre livre, La mode et politique, est toujours disponible aux éditions Les Insolentes. Christelle Cochet, on attend la prochaine collection de votre marque Cochet avec impatience. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et Ruben Carmazine. Aujourd'hui, à la technique, c'était Dali Yaha. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.